Je voudrais, pour commencer, pour vous parler d'un homme qui est très cher, un homme spécial. C'était un homme fidèle et zélé, un homme qui plaçait Dieu en premier dans sa vie et qui suivait les enseignements de Jésus-Christ. À l'approche des jours de pain sans levain, il a sans doute éliminé le levain de sa maison et s'est préparé à célébrer les jours saints de printemps. En célébrant la Pâque cette année-là, il devait sans doute remercier Dieu pour le sacrifice de son Fils. Il a placé sa confiance en Dieu dès le premier jour de sa vocation et s'est probablement demandé ce que Dieu avait en tête pour lui au cours de l'année à venir. Et puis, il a été assassiné, brutalement et sans soumission. Un homme de Dieu, aimé de l'Église. Lisons son histoire dans les Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, et on va lire versets 1 à 3. Actes, chapitre 12, versets 1 à 3. Il y a une référence de cette personne, cet homme, par M. Solozano. On souvent fait référence à lui dans les évangiles, mais on ne cite pas beaucoup ce référence ici dans Actes 12 et versets 1 à 3. Il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. C'était pendant les jours de pain sans levain. Jacques, frère de Jean. Jacques, fils de Zébédée. Jacques, l'un des fils de Tonnerre, a probablement été décapité en 43 ou 44 après Jésus-Christ, probablement dans la quarantaine. Il était le troisième disciple appelé par Jésus et faisait partie du cercle plus intime de son maître. Son nom vient toujours après celui de Pierre dans les listes des auteurs des évangiles. La liste était toujours composée Pierre, Jacques et Jean. Il était sur la montagne lors de la transfiguration de Jésus et a vu son maître parler avec Moïse et Élie. Il était l'un des trois disciples à qui Jésus a demandé d'assister à la guérison de la fille de Jairus. Lorsque Jésus a ramené cette petite fille d'entre les morts. Elle était dans le jardin la nuit de l'arrestation de Jésus, l'un des trois disciples que Jésus avait amené avec lui pour prier. Bien qu'il ait pu être un peu gêné à ce sujet, il s'est dormi en priant ce soir-là. Elle était si zélée, comme M. Solozano a mentionné, qu'il voulait même appeler le feu du ciel sur les Samaritains. Dieu aurait certainement pu le protéger s'il avait voulu protéger l'un de ses disciples. Pourtant, Jacques, le fils de Zébédée, a été le premier des disciples de Jésus à être martyrisé. Pourquoi Jacques a-t-il dû mourir? Et pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il meure pendant les jours de pain sans levain? Alors que nous terminons ces jours de pain sans levain, j'aimerais vous parler de l'histoire de Jacques et du fait d'apprendre à avoir confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Parfois, nous pouvons penser que parce que nous faisons certaines choses, Dieu nous épargnera toujours le mal. Nous éliminons le levain de nos maisons comme Jacques l'a fait. Nous célébrons la Pâque comme Jacques Nous respectons le sabbat, comme Jacques. Nous avons Dieu, nous aimons Dieu, comme Jacques l'a fait. Cela nous amène à nous poser la question suivante. Si Jacques a pu être tué pour marquer des points politiques pour le roi Hérode Agrippa, Dieu permettra-t-il également que moi, ou un être cher, mourant? Alors que nous entamons notre voyage chrétien au cours des jours saints annuels, réfléchissons à ce que signifie faire confiance à Dieu de tout son cœur, même dans les moments difficiles. Dans ce sermon, nous allons d'abord examiner le contraste entre la façon dont l'ancien Israël a réagi aux difficultés liées à ces jours de pain sans levain et la façon dont les membres de l'Église du Nouveau Testament ont réagi ainsi pour les leçons que nous pouvons en tirer, les leçons de les jours de pain sans levain. Ensuite, nous allons nous demander pourquoi une personne vit et une autre meurt. Dans ces cas, Jacques a été tué, mais Pierre a été sauvé. Enfin, nous allons parler des grands projets de Dieu que parfois nous ne pouvons pas voir. Le titre du message aujourd'hui est « Pourquoi Jacques a-t-il dû mourir ?» Pourquoi Jacques a-t-il dû mourir? Et lorsque nous aurons terminé, j'espère que nous pourrions quitter ces jours de pain sans levain, prêts à marcher vers le jour de la banquette, dans la foire, quelles que soient les circonstances. Je prie pour que nous puissions suivre ce chemin même lorsque l'inexplicable se produit. Commençons donc par notre premier point en comparant les événements traumatisants de ces jours de pain sans levain qui suivent immédiatement l'exode d'Égypte avec ceux de l'histoire de Jacques. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Exode 15. Vous pouvez garder votre place ici à Actes 12. Et regardez Exode 15. Exode chapitre 15, à verset 22. Exode 15, verset 22. Le contexte de ce verset est le suivant. Dans Exode 14, nous voyons la traversée de la mer Rouge, après que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. C'est l'un des grands miracles de l'histoire d'Israël. La nation a été sauvée à l'armée égyptienne, a été détruite. Bien qu'il y a un débat sur la date de la traversée de la mer Rouge, on peut affirmer qu'elle a eu lieu le dernier jour de pain sans levain. Puis, à partir de Exode 15, nous avons l'un le plus ancien texte encore conservé aujourd'hui, le chant de Moïse. C'est un chant qui dépeint ces grands événements. C'est un chant que David chantera à Saoul des centaines d'années plus tard. C'est une sorte d'hymne national pour la nation d'Israël et même pour l'Église aujourd'hui. Nous avons chanté le psaume, une version de ce cantique. C'est la nouvelle chanson de Moïse, c'est page, je crois, 174, nous avons chanté ça. Il y a un autre sur notre livre qui est tiré d'Exode 15 à la page 88, basé sur ce chapitre, le titre c'est « Je chanterai à l'Éternel ». Donc ça c'est incroyable les événements. C'est ainsi que la nation se réjouit de ces jours de pain sans levain. Leur foi serait plus forte que jamais après avoir été témoin de ces miracles. Dans ce contexte que nous lisons l'histoire ici, dans Exode 15, verset 22. Donc imaginez tout le contexte, le cantique de Moïse. Ici, à la fin du chapitre, voilà, il dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple prie et dit, Dieu, je sais que tu es là toujours pour nous, merci. Non, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Que boirons-nous? Les choses sont rapidement devenues plus difficiles et elles pourraient le devenir également pour l'Église de Dieu et probablement pour certains d'entre nous au cours des 50 jours qui nous séparent de la Pentecôte. Nous souviendrons, nous, des miracles de Dieu, de la Pâque et de la signification de ces jours saints, ou douterons-nous? Ici, les gens ont murmuré. La semaine dernière, nous avons parlé des instructions que l'apôtre Paul a données aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 10. L'un de ces exemples est celui de murmuré, de l'ancien Israël contre Moïse et Aaron dans Nombre 16. L'attitude des Corinthes, toute comme celle décrite ici, est une attitude qui dit « Je n'ai pas confiance en toi. Je n'ai pas confiance en toi. Je sais, mais je n'ai pas confiance en toi. » C'est un esprit qui se plaint et qui se fait passer pour victime. Ce n'est pas un esprit de foi et de confiance. Ils étaient au bord de la mort après 3 jours sans eau. Il se peut même que certains étaient déjà morts. Serait-il naturel que les gens se plaignent dans telles conditions? Oui, bien sûr, si nous suivons notre nature humaine. Mais ce n'est pas ce que nous sommes appelés à faire. C'est dans ces moments, comme celui-ci, que notre foi est mise à l'épreuve. Je veux dire que si Dieu avait fait tous ces miracles jusqu'à ce point, n'aurait-il pas pu les conduire à un endroit où l'eau était bonne à boire? Oui, bien sûr, Dieu est capable. Pourquoi cette situation arrive? Leur foi a été mise à l'épreuve et qu'ils ont été trouvés faibles dans cette instance. Ne suivons pas cet exemple? Non. Lisons la suite de l'histoire au verset 25 et 26. Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indique à en boire qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. L'eau devient douce, ok. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des rois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il mit à l'épreuve, intéressant. Et verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ce qui apparut clairement après la fin de l'épreuve, c'est que Dieu les avait mis à l'épreuve pour voir si, après tout ce qu'il avait fait pour eux, ils continueraient à lui faire confiance. Et ils ont échoué. C'est ainsi qu'il leur a fait une dernière promesse, une promesse de protection contre les maladies. Nous avons également cette promesse aujourd'hui. Mais comme dans l'histoire de Jacques, et même dans le contexte de ce passage, il ne s'agit pas d'un évangile de santé et de richesse, hein? Dieu permet à son peuple de tomber malade et d'en mourir. Ses plaintes sont plus grandes que ce que nous pouvons suivant percevoir, et cela fait partir du fait d'apprendre à avoir confiance en Dieu. Donc, ça, c'est l'exemple de l'ancien Israël lors de ses jours de pain sans levain, ou en quittant les jours de pain sans levain. Revenons maintenant à Acte 12. Acte 12. Et comparons la réponse de ceux qui se trouvaient ici, à Jérusalem, par l'Église du Nouveau Testament. Acte 12, et lisons maintenant, on va relire le verset 1 à 3, mais on va continuer jusqu'au verset 5. Nous en déduisons que ces événements ont lieu à Jérusalem, car c'est de là que le roi Hérode Agrippa aurait gouverné. Le site de nous dit pas grand-chose. La citation ici, il n'y a pas beaucoup de choses qui est mentionné le lieu, mais on peut déduire ça. Voilà. Acte 12, verset 1, encore. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escoudés, de quatre soldats chacune, avec l'intention de la faire comparaître devant le peuple après la Pâque, ou après, probablement après que les 7 jours de pain sans levain aient fini. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà, quelle différence dans cette situation avec Pierre en prison. Non, l'Église du Nouveau Testament n'était pas une victime. L'Église, à l'époque, il sait les choses qu'il doit le faire. Il doit prier pour lui. Le verset 5 en dit long, la façon dont l'Église a géré le traumatisme de l'exécution de Jacques et de l'exécution imminente de Pierre était la prière. Ce n'est pas par des murmures, ce n'est pas en doutant de Dieu, c'est la confiance en lui qui s'exprime dans la prière. Avez-vous eu ces moments de prière où vous avez prié comme si votre vie et celle des autres en dépendaient? C'est le genre de prière que j'imagine ont eu lieu dans la maison de la mère de Jean-Marc. On va lire ça dans un instant. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis réveillé au milieu de la nuit et où j'ai prié. J'ai prié, lu le livre de Job et lutté avec Dieu à propos de ce qui s'était passé dans ma vie. Ces moments viendront pour chacun d'entre vous et Dieu saura de quel côté nous nous tourneront. Serons-nous comme des personnes ici présentes qui luttent avec Dieu dans la prière, cherchant des réponses que notre esprit humain ne peut pas comprendre? Pourquoi Jacques a été tué? Pourquoi Pierre t'est mis en prison? Dieu, est-ce que tu es là ou non? Ça, c'était 13 ans après la résurrection de Jésus-Christ. 13 ans de miracles. Il y a toutes sortes de miracles dans les pages de le livre de Actes. Est-ce que ça, c'est le moment d'avoir les doutes ou est le moment de prier avec force? Si nous serons comme ceux de l'Exode 15, qui ont oublié si facilement la grandeur de Dieu et qui se sont plaintes et se sont mises en colère parce que les choses ne vont pas comme ils le souhaitaient, ou comme ici, dans cet exemple. Deux exemples de choses qui se sont produites dans les jours de pain sans levain qui ont immédiatement après, lesquels des dieux sera notre histoire. Examinons maintenant notre comportement. Et continuez l'histoire ici, parce que, bien sûr, il y a des difficultés. Verset 6 maintenant. Acte 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Les jours des pains sans levain sont terminés. Et le moment de l'exécution de Pierre est proche. Jacques avait été décapité. Et c'était maintenant le tour de Pierre. Que se passe-t-il dans l'esprit de Pierre dans ce moment? Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveillait Pierre et la frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Donc, il y a des détails. Il est dans les détails. N'oubliez les chaussures, les chansons, oui, n'oubliez pas. Oui, c'est le moment de départ. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision. Oui, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ça, c'est incroyable. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvre d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenons à lui-même, Pierre, verset 11. Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. » Ce n'est pas juste Hérode, c'est les Juifs. Verset 12. « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » C'est ainsi qu'au verset 12, nous voyons le deuxième référence à la prière du peuple de Dieu en réponse à la persécution et aux épreuves. la vie de Pierre, a été sauvé. Comment ça a-t-il pu se produire? Comment sa vie a-t-il pu être épargnée et celle de Jacques prise? Pierre a été sauvé, mais Jacques a été décapité et Étienne lapidé. Avez-vous réfléchi à ce que Pierre a pu ressentir en sachant que d'autres étaient morts, mais qu'il avait été épargné, au moins pour un temps, au moins pour un temps. Parce que bien sûr, Pierre était martyrisé aussi. Qu'en est-il de Jean, le frère de Jacques? Pourquoi Jésus, lui, a-t-il dit qu'il vivait vieux? Pourquoi Jacques a-t-il été le premier à mourir et son frère Jean le dernier? Pourquoi des milliers de nourrissons, les petits bébés, sont-ils morts à Bethléem lorsque Hérode le Grand cherchait à faire mourir Jésus? Pourquoi les choses qui se passent comme ça? Voyons comment Jésus a répondu à ce type de questions. Reportez-vous s'il vous plaît à Luc 13. Encore, vous pouvez garder votre place ici, mais Luc 13, Luc 13 et versets 1 à 4. Luc 13, versets 1 à 4. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient la racontaient à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périez tous également. Verset 4. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, et qu'elle était tuée, croyez-vous qu'elle ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Verset 5. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périez tous également. Jésus a choisi de ne pas répondre directement à cette question, mais de l'utiliser comme un appel à l'action, un appel à la repentance. Quelle réponse profonde! Parfois, nous ne pouvons pas savoir pourquoi les choses arrivent dans notre vie. Mais pouvons-nous les accepter? Au lieu de cela, pouvons-nous transformer les choses de notre vie qui nous ont causé une grande douleur et un appel à la repentance? Un appel à aller de l'avant dans la foi en ayant confiance que Dieu a un plan et qu'il sait ce dont nous avons besoin. Beaucoup d'entre nous ont perdu un proche. Beaucoup d'entre nous nous ont subi des problèmes de santé. Mon fils m'a raconté une conversation il y a quelques jours qu'il a eue avec son chauffeur Uber. L'homme était bosniaque. Et le génocide en Bosnie a commencé lorsqu'elle avait 16 ans. Cet ado a arrêté d'aller à l'école à cause de la guerre et n'a jamais pu terminer ses études. Elle a recollé les morceaux de sa vie et c'est aujourd'hui chauffeur Uber. Pour la plupart des gens dans le monde occidental, la vie est relativement bonne. Le message essentiel est que cette vie et ce monde ne sont pas notre maison. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes en voyage, un voyage qui commence avec la Pâque et ses jours de pain sans levain. Une fois ces jours terminés, nous ne retournons pas à notre vie normale. Gardons à l'esprit que nous ne vivons plus seulement pour cette vie physique, mais que nous en entendons une autre, bien plus riche. Nous avançons vers quelque chose de nouveau spirituellement, quelque chose qui nous motive, qui nous inspire, nous remplit d'espoir et qui nous réconforte, car nous savons que si nous désirons cette vie nouvelle avec ferveur, Dieu en fera une réalité, même si la vie courante est souvent remplie de peine. Ça, c'est vraiment les leçons des jours après les jours de pain sans levain. Les anciens Israélites toujours voulaient retourner à Égypte. Et après les jours de pain sans levain, ça peut être notre épreuve aussi. De retourner à notre vie normale, disons. Non, il n'y a pas une vie derrière nous. Notre vie est devant nous. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Hébreux chapitre 11. Hébreux. Pardon. Hébreux chapitre 11, verset 13. Et cette vie devant nous peut aussi avoir des épreuves et des difficultés. On peut voir ça avec l'exemple, cet exemple de Jacques. Hébreux 11, verset 13. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, une maison, un pays spirituel. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Bien sûr, ça c'est l'épreuve. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Une cité, un pays. Donc ça, c'est notre avenir. C'est pas notre vie derrière nous. Ça, c'est notre avenir. Et cette vie va être difficile, comme la fin de Exode 15 pour les anciens Israélites. Je ne pense que Jacques et Pierre, ainsi que les habitants de Jérusalem à l'époque, je crois qu'ils probablement à certaines choses dans leurs esprits, mais je ne sais pas s'ils comprennent que ça veut dire que Jacques va être tué si vite, dans un sens, 13 ans après. Je pense que c'est la leçon à tirer de la mort de Jacques. Explication de ce qui semble inexplicable en termes humains. Nous cherchons une patrie, nous cherchons un pays meilleur, un pays céleste, meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Venons-nous à notre patrie? Donc, c'est difficile de comprendre, mais ça c'est notre vie après ces 7 jours de pain sans levain. Bon, notre troisième point concernant la mort de Jacques. Les plans plus vastes de Dieu, des plans qui souvent nous ne pouvons pas voir. Poursuivons l'histoire en Actes 12. Maintenant au verset 13. Donc revenons à Acte 12. Parce que souvent il n'est pas possible pour nous de voir vraiment le plan plus vaste que Dieu a en tête. On voit juste les choses devant nous. Verset 13, Acte 12, verset 13. Donc, nous avons lu le fait qu'il y a l'Église et il y a des personnes à Jérusalem dans cette maison en train de prier, et on peut voir le reste de l'histoire, verset 13. Donc, il, ça, on parle de Pierre, Pierre frappa à la porte de vestibule et une servante nommée Rod s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dira, « Tu es folle !» Mais elle affirma que les choses étaient ainsi, et elles dirent, « C'est un ange ! C'est un ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Il ouvre, et furent étonnés de le voir. Il s'agit d'un détail amusant, inséré dans une histoire si traumatisme et sérieuse. Une personne tuée, un autre emprisonné, des gens qui prient pour un miracle et qui, lorsque le miracle se produit, n'y croient même pas. Dans les moments difficiles, nous devrions rire de temps en temps, franchement. Nous avons besoin quand le temps s'endure. Donc c'est une histoire amusante au milieu de cette grave histoire. Verset 17 maintenant. Pierre, leur ayant à la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il dit là, c'est le Seigneur. Donc pour Pierre, oui, c'est un ange, bien sûr, mais c'est Jésus, c'est Dieu qui lui a sauvé. Donc, il rencontrait comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques. Ça, c'est notre Jacques. Probablement, ça, c'est Jacques qui est le demi-frère de Jésus, qui a écrit le livre de Jacques dans la Bible, qui était responsable pour l'Église, l'Assemblée de l'Église à Jérusalem. Donc, il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis, il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Il s'en alla dans un autre lieu. Un autre endroit que Dieu avait préparé pour lui, enfin de le protéger, mais c'est en là dans un autre lieu. À partir de ce moment, à l'exception du conseil de Jérusalem en Acte 15, Pierre n'est plus jamais mentionné dans le livre des Actes. En fait, aucun des premiers apôtres n'est mentionné après cette histoire. L'accent est mis sur un autre groupe de dirigeants, Paul, Barnabas, Jean-Marc, Timothée, Silas, Aquila et Priscilla, pour n'en citer que quelques-uns. Nous savons que l'apôtre Pierre a continué à travailler, notamment en écrivant deux lettres à l'Église qui sont incluses dans le canon du Nouveau Testament. L'histoire se tourne maintenant vers un monde au-delà de la Judée. Verset 20 du chapitre 12 du livre des Actes, nous apprenons la mort prématurée du roi Hérode Agrippa. Lisons la suite, l'histoire maintenant. Verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais il vint le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa substance de celui de roi. C'est intéressant, il y a des détails ici. Et ce détail vraiment montrait à quel niveau Hérode, ici, ce Hérode est le petit-fils de Hérode le Grand, qui était associé avec la naissance de Jésus. Hérode Agrippa, le roi, il était très doué dans le domaine de politique. Un homme pas très âgé. Et ça décrit sa manière à trouver les solutions partout. On va discuter dans un instant. Verset 21. Et un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un dieu. Voix d'un dieu, énorme et non d'un homme. Et au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de vers. Ouf, rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. La plupart des historiens pensent qu'il était empoisonnier. Donc, nous avons lu que c'était un ange. Donc, ça, c'est la vérité, hein, parce que ça, c'est la Bible. Mais ce roi était un roi dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui étaient publiées sur lui. Donc, selon les historiens laïcs, ils croient qu'il était empoisonnier. C'était un politicien remarquable qui s'est attiré les faveurs des Césaires de Rome, notamment Tibère, Caligula et Claude. Grâce à ces faveurs, la famille d'Hérode se voit restituer de nombreuses terres en Judée. Comme j'ai mentionné, le grand-fils d'Hérode le Grand. Mais la mort prématurée d'Agrippa mit fin au règne de la famille Hérode et aux bonnes relations même aussi avec Rome. Sa mort en 44 après Jésus-Christ marque le début de mauvaises relations qui aboutiront à la révolte des Juifs contre Rome et la destruction de Jérusalem en 60, 10 après Jésus-Christ. Donc, j'imagine que ce monsieur qui a restauré la gloire de la famille Hérode, qui a rattrapé la terre pour sa famille, probablement il croit qu'il est un dieu. Et il n'est pas donné la gloire à Dieu, bien sûr. Voilà, donc ça c'est l'histoire d'Hérode. Il sera difficile pour Pierre d'imaginer tous ces événements dans une perspective plus large. Dieu avait un plan. Et je pense que Pierre et les habitants de Jérusalem ont appris à accepter ce concept. Au début de ce voyage, spirituellement parlant, apprenons à accepter les choses de notre vie que nous considérons comme injustes, inéquitables et inexplicables. Peut-être en verrons-nous un jour la signification, ou peut-être serait-elle révélée lorsque nous serons ressuscités dans le royaume de Dieu. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, nous finirons par savoir. Lorsque je repense à ma vie, je comprends maintenant pourquoi certaines choses ont dû se produire, comme celles se sont produites. D'autres choses, pour moi, sont inexplicables. C'est la substance, franchement, de la foi décrite dans Hébreux 11, n'est-ce pas? Ça, c'est la substance. On ne nous donne pas beaucoup de détails sur la raison pour laquelle Dieu permit à Jacques de mourir. Mais nous savons que l'Église a traversé l'épreuve dans la prière. Nous donnons l'exemple. Nous savons que Pierre a été miraculeusement sauvé, ce qui a renforcé la foi de l'Église de Dieu jusqu'à nos jours, même pour nous. Nous savons que Dieu a fait de ce Hérode un exemple aussi pour l'Église, mettant fin à la lignée des rois de sa famille pour toujours. Nous savons que l'histoire s'est terminée par une prédication encore plus puissante de la parole de Dieu. Ça, c'est ça que nous avons lu dans verset 24. Lorsque l'apôtre Paul a écrit ces mots célèbres dans Romains 8, nous avons lu quelques mots déjà dans cette assemblée, mais moi je voudrais lire quelques mots un petit peu plus tard dans Romains 8. Reportez-vous s'il vous plaît à Romains 8, verset 35. Romains 8. Verset 35 à 39. Les mots bien connus, mais c'est important de relire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-il la tribulation? La tribulation. Est-ce que nous avons vraiment vécu une tribulation? Je sais, dans certains pays en Afrique, il y avait de la tribulation. Ou l'angoisse? Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée a tué Jacques. Selon qu'elle est écrit, à cause de toi, qu'on nous mette à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est pas une vie difficile, hein? C'est pas une vie difficile. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, on peut lire ça très vite. Mais Jacques était un ami de Pierre, de Jean, de Jean-Marc, de Paul, de Barnabas, de tout l'Église du Nouveau Testament, et il était tué soudainement, même pendant les jours de pain sans levain. Ni la mort, ni les anges, ni la vie, pardon, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul a vu le peuple de Dieu persécuté et les fidèles mourir. Il a souffert en prêchant le message de l'Évangile et il remet toutes ces choses entre les mains de Dieu. Il a prié pour que Dieu lui donne son pain quotidien. Ça, c'est l'exemple pour nous. En conclusion de ces jours de pain sans levain, faisons confiance au Seigneur pour la suite de notre voyage. Comme Jacques, nous sommes entrés dans ces jours de pain sans levain, et comme Jacques, nous ne savons pas ce qui se passera dans l'avenir. Nous sommes allés sans levain pour symboliser un mode de vie différent de celui d'avant. Et ce nouveau mode de vie aura ses difficultés. Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme nous le lisons. Pas même la mort. Comme ce fut le cas pour l'apôtre Jacques, qui savait qu'il sera un jour ressuscité. Mettre notre confiance en Dieu, sachant qu'il nous aime et qu'il veut que nous soyons dans son royaume.